100% pour ton bulletin de nouvelles. Oui, puis notre invité nous attend. Excusez, on pensait qu'on allait avoir un petit retard, mais il est déchiré entre plusieurs médias parce qu'il est si bon. Notre ami Luc La Liberté, qui est au bout du Zoom, qui est chroniqueur de politique américaine. Salut, Luc.
Ouais, bonjour à vous deux.
Merci d'être là avec ton grand dynamisme. Juste dire qu'en passant, la pluie a commencé du côté de Beauport. Alors, l'orage, ça commence, mesdames et messieurs, sur le territoire de la ville de Québec. Mathias, avant de parler à Luc, résume-nous un peu la nouvelle du pourquoi on lui parle aujourd'hui. Ça brasse encore en Iran et avec le détroit d'Ormuz.
Oui, le conflit autour de ce fameux détroit-là se poursuit entre les États-Unis et l'Iran. Les frappes américaines qui ont repris de plus belle, qui se multiplient. Et des deux côtés, ensemble, vouloir prendre le contrôle du détroit. L'Iran qui a repris le contrôle, qui a refermé le détroit. Le président américain qui dit « Non, non, on s'en va prendre le contrôle du détroit puis on va mettre une taxe de 20 %.
Luc, qui croire dans ce bras de fer-là?
grande question existentielle. On a une guerre ou un affrontement, donc bien sûr par missile ou par frappe interposée, autant on a une guerre de mots également. Que l'Iran prenne le contrôle de ce détroit ou que les États-Unis en prennent le contrôle, ce qu'on va retenir essentiellement, c'est qu'il ne passe personne ou très peu de bateaux, très peu de navires ou de ravitaillement par ce fameux détroit. Et ce que ça pose des deux côtés, c'est quel est l'objectif ultime? Quel est le grand objectif, qu'il soit politique ou qu'il soit militaire, qu'on souhaite atteindre en se comportant comme ça? Donc, on ne parle même plus ce matin de cesser le feu et pourtant, on était à peu près à mi-chemin là, dans cette échéance de 2 mois qu'on se donnait pour négocier. Et si je me penche du côté américain, parce qu'on a un peu plus d'informations que ce qui émane d'Iran où l'information est encore plus, beaucoup plus contrôlée, Donald Trump aimerait s'enlever cette épine du pied. Les républicains ne voudraient pas avoir à faire une campagne électorale en ayant ce conflit ou en ayant ces problèmes d'approvisionnement qui les hantent depuis un certain temps déjà. Mais sont-ils prêts à, entre guillemets, l'étape suivante? Parce qu'on dit toujours qu'on est prêt à parler, même si on effectue des frappes présentement. Et si on effectue des frappes, pendant combien de temps le fait-on? Et je répète, avec quel objectif? Ce que font les Américains actuellement, ils ont suffisamment de missiles pour mener cette confrontation-là, mais c'est sûr qu'on puise dans les stocks et on se dit si les Américains devaient intervenir sur un autre front, éventuellement, ça pourrait être problématique. Donc, on cherche quoi? Est-ce qu'on cherche le contrôle du détroit? On ne semble plus parler beaucoup du nucléaire qui était à l'origine la grande raison ou le principal motif. Et quand je dis quelle est la stratégie, c'est pour être en mesure de battre l'Iran. La supériorité américaine, elle est indéniable. Mais pour être capable d'arriver, de parvenir à nos fins, que ce soit le détroit et ou le nucléaire, est-ce qu'on est prêt à payer encore plus cher, à envoyer encore plus de missiles? Et qui sait, à envoyer les fameuses boots on the ground, ces fameux soldats, ces hommes ou ces femmes sur le terrain pour mener des opérations? Et c'est là où on se retrouve alors qu'on est déjà, quoi, presque mi-juillet. Puis l'échéance électorale, elle, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, elle continue de s'approcher. Le sablier ne va pas s'arrêter.
On discutait de ça ce matin, puis on se disait, hey, si jamais Donald Trump n'est pas réélu ou quoi que ce soit, est-ce qu'on va être capable de ramasser les dommages collatéraux de cette provocation-là? Parce que au final, t'as la résilience de l'Iran d'un bord, puis t'as la tête enflée, puis l'orgueil des États-Unis de l'autre. Les États-Unis qui ont dit qu'ils veulent être connus sous le nom de gardiens du détroit d'Ormuz maintenant, entre autres sur le réseau Truth Social, avec le président américain. Puis Téhéran, eux, ben, qui continuent de frapper en disant « Non, 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 on va instaurer des frais de service. Vous allez voir que ce que vous avez jamais eu comme problématique avec le détroit d'Ormuz, vous allez l'avoir dans le futur. Rémunération qui va correspondre à 20 % de la valeur des cargaisons qui va passer par là. » Là, c'est vraiment au plus fort la poche, mais en même temps, les poches sont pas profondes pour tout le monde.
Non, puis je répète, c'est vraiment une question de temps. On évaluait il y a déjà 1 mois que l'Iran pouvait tenir quelques mois, de 3 à 6 mois. Est-ce que les Américains sont prêts ou sont patients à ce point? C'est là où l'échéancier politique redevient encore crucial. Et il faudra voir aussi, parce que ceux qui essuient la réplique iranienne depuis le début, ce sont souvent des pays de la région. On ne frappe pas les États-Unis. On peut frapper des intérêts américains à l'étranger, mais on ne frappe pas les États-Unis chez eux. Il faudra voir pendant combien de temps aussi des alliés des États-Unis sont prêts à essuyer ces tirs de l'Iran. Donc, c'est toute une zone, hein? On parle beaucoup du détroit, puis c'est vrai, ça, c'est le cœur ou le centre. Mais quand on regarde le rayonnement que ça a dans la région, c'est particulièrement tendu pour beaucoup de pays, au-delà de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis.
Ce qui était entre deux pays, entre deux mêmes personnes, je pourrais dire, gorgées d'orgueil, d'ego, est devenu quelque chose de mondial. Ça va même directement influencer la vie de gens du Québec, de Québec. On parlait avec des entrepreneurs qui ont des cargaisons, des paquebots qui doivent circuler sur le détroit d'Ormuz il y a quelques semaines de ça. Énormément de points d'économie qui sont touchés. Il y a des compagnies qui en souffrent et qui en souffrent aussi avec tout ce qui est la structure économique de Donald Trump. L'Iran voulait et ou a laissé passer le message avec Israël que Donald Trump serait à risque de se faire assassiner. Certaines personnes disent que
Ben.
l'Iran n'a pas besoin d'assassiner Trump pour lui
Non.
nuire. Toi, tu te positionnes comment?
Moi, je ne sais pas à quel point on peut accorder de la crédibilité à cette information-là. On devine que le président américain est une ou un des dirigeants les mieux protégés sur l'ensemble de la planète. Ce que ça montre, c'est plus cette rhétorique-là, c'est cette guerre de mots à laquelle on se livre. Faut rappeler que le président Trump a déjà dit, hein, on a l'impression que ça fait déjà très longtemps, mais il a dit, moi, je vais faire disparaître toute cette civilisation d'un coup. Ah, donc, on va, il parlait littéralement de bombarder l'Iran, mais dans son ensemble. Ça va avec la guerre de mots. Ça va avec une forme d'intimidation, de réplique. Faut voir aussi que ce soit les dirigeants iraniens ou Donald Trump, il y a le message qu'on passe aux alliés et il y a le message qu'on passe également à notre population. Donc, il y a un spin, entre guillemets, politique aux États-Unis, mais il y en a un en Iran aussi. Moi, je répète, ce que j'attends des États-Unis, qu'on considère l'élection ou pas, mais c'est très difficile de pas la considérer, c'est quel est le plan clair? Parce qu'il ne semblait pas y en avoir au début, et on est maintenant dans une forme d'enlisement dans cette région-là de la planète, et c'est coûteux sur tous les plans.
Ben, c'est coûteux sur tous les plans, puis on ne sait même pas si ça va être capable d'être inversé si jamais c'est plus Trump qui est au pouvoir. On a aucune idée si les dommages collatéraux vont perdurer parce que ça reste qu'il y en a. Puis pour certains, c'est pas juste Donald Trump, mais c'est le pays des États-Unis au complet. Sur un autre point, là, il y a des choses qui se trament aussi sur le territoire de nos voisins américains. Décès du sénateur Lindsey Graham, qui était l'allié de Trump, qui était défenseur d'Israël, de l'Ukraine, est décédé à 71 ans. Ça peut-tu jouer aussi sur la structure de Trump?
Ça, c'est d'ailleurs, en passant, c'est intéressant la carrière de Lindsey Graham pour quelqu'un qui est fasciné par le commentaire politique ou l'analyse politique, parce qu'il représente bien, Lindsey Graham, ce que le virage qu'a pris le Parti républicain avec l'arrivée de Donald Trump. Quand on colle bout à bout des déclarations d'il y a 15 ans ou 20 ans de Lindsey Graham avec des déclarations de la dernière année, on a l'impression que c'est pas le même personnage qui parle. Mais il y a une période avant Trump et une période après Trump. Et Lindsey Graham s'est contredit à de nombreuses occasions, mais il a constaté, comme les autres, que c'était maintenant le parti de Donald Trump et de ses partisans. Maintenant, ce décès-là, soudain, parce qu'on s'interroge sur d'autres républicains comme Mitch McConnell, par exemple, qui est hospitalisé présentement, puis on se dit, est-ce qu'on va avoir à le remplacer? Le décès soudain de Lindsey Graham, ça place les républicains dans une position qui est précaire au Sénat. Ils ont, au moment où on se parle, ben en fait, c'est même plus vrai au moment où on se parle, mais avant le décès de Lindsey Graham, il y avait 53 républicains contre 47 démocrates. Donc, on avait une majorité. On a toujours cette majorité-là, mais on a deux sénateurs qui ne peuvent plus voter, M. Graham qui est décédé et Mitch McConnell qui ne peut pas se déplacer pour aller enregistrer des votes. Ça les met donc à 51 sénateurs républicains. Et on sait que dans ces 51 sénateurs républicains, il y en a trois ou quatre qui en veulent à Donald Trump. Ils quittent la politique, eux. Ils ne se représentent pas au mois de novembre, entre autres dans certains cas parce qu'ils sont en guerre avec le président Trump. Est-ce qu'ils pourraient être tentés de voter avec des démocrates pour nuire à certaines mesures ou certaines nominations du président Trump? On ne peut pas l'exclure. Et c'est ce qui expliquait que tôt ce matin, Donald Trump lui a déjà identifié qui il voudrait pour remplacer Lindsey Graham. C'est une particularité aux États-Unis. Donc, c'est le sénateur, il était sénateur de la Caroline du Sud, Lindsey Graham. C'est le gouverneur de l'État qui va le remplacer, qui va choisir qui va terminer son mandat. Il était en poste officiellement jusqu'au mois de janvier. Et Donald Trump, qui veut être certain de faire le moins de vagues possible puis de compter sur une alliée, dit: Moi, je voudrais que vous nommiez la sœur de Lindsey Graham pour terminer son mandat. Ça lui ferait quelqu'un de fidèle, un
C'est ça.
52e vote, et il espère que Mitch McConnell retrouve suffisamment de force pour aller enregistrer un 53e vote si on en avait besoin.
La stratégie du poids. On va suivre ça, sinon on va t'appeler. Et où les deux, Luc La Liberté, chroniqueur de politique américaine. Un gros merci d'avoir été avec nous.
Parfait, une bonne semaine à vos auditeurs, à nos auditeurs, puis à vous aussi.
Absolument. Puis on peut retrouver Luc toujours dans son podcast, La Liberté en clair. C'est à suivre. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. C'est toujours un éclaircissement total sur la situation. Matt, je ne sais pas ce qui va arriver pour la suite des choses, mais chose certaine, là, même du côté de l'Iran, on a des réseaux sociaux qu'on alimente un peu à la Trump. Mais David Chabot nous disait ce matin, un chroniqueur aussi de politique internationale qui est dans l'émission d'Yannick, que c'est un peu chaotique, là. Toutes les ambassades de l'Iran, peu importe où elles se trouvent, elles ont le droit de communiquer puis de tweeter. Puis eux, ils vont pas avec le dos de la main morte. Ils sont assez intenses. Tandis que Donald Trump a un peu la même façon de faire, mais c'est lui qui suit son propre canal, puis il y a juste lui qui tweet. Mais ça fait en sorte qu'on dirait qu'on est dans une cour d'école, mais dans des enjeux mondiaux hyper importants.
Ah, c'est fou, raide, parce que autrefois, on avait deux discours, mais on avait un des deux discours qui était plus fiable. Le discours américain, on savait qu'on pouvait se fier à ce que les Américains disaient. Maintenant, on semble devant deux discours, puis on est comme, mais les deux, c'est parce que les deux, genre, je
ils
fais pas
veulent se faire peur.
nécessairement confiance en l'information
Non,
qu'ils nous
c'est
donnent
ça.
dans deux camps. Puis, tu sais, ça semble être un peu n'importe quoi au cours des derniers mois, ce conflit-là, mais le problème, c'est que ça nous impacte directement.
Oui,
ça nous impacte
c'est la
directement au prix à la pompe.
C'est la question que j'aimerais vous poser au 88-971-1021, parce que oui, il y a le prix à pompe, mais il y a tellement de monde qui travaille dans une industrie qui est impactée par le prix de l'essence, oui, mais beaucoup plus grand que ça. T'sais, on parle de transport, on parle de marchandises, on parle de création de produits. C'est partout, c'est tes vêtements. Moi, j'ai l'impression, j'ai quasiment le goût de faire un concours vraiment plate, puis c'est trouver quelle entreprise est impactée en ce moment par cette guerre au Moyen-Orient-là, avec le fait que c'est figé dans le détroit d'Ormuz. Mais tu sais, une entreprise dont on se doute absolument pas qu'il peut avoir des répercussions négatives. Puis je pense qu'on ne gratterait pas si loin avant que quelqu'un lève la main pour dire « Ben moi, voici ce que ça crée comme problématique de mon côté. Y avez-vous pensé? » Tu sais, si vous en connaissez, là, vous avez des choses à dire, 88-971-1021, je t'avais de commencer mon concours. Puis c'est juste pour avoir de l'information, mais l'information importante aussi dans le conflit. Quand ça t'intéresse pas, je comprends. Mais quand ça touche ta poche, là, toi, tu comprends.
Puis indirectement, ça touche beaucoup plus de poches qu'on ne pense. C'est un des plus gros passages commerciaux au monde là, qui est bloqué, réouvert, bloqué, réouvert, bloqué,
puis
réouvert.
Les impacts que ça va avoir. Là, l'Iran est en train de dire qu'il va falloir payer un pourcentage pour chaque cargo qui va pas. Ah, c'était pas ça avant.
Ben,
il va avoir des dommages collatéraux, 20% sur des cargaisons de millions, là.
Puis là, l'Iran dit... Va falloir payer. Puis de l'autre bord, le président américain dit non, non, c'est nous autres qui va prendre le contrôle pour faire payer.
C'est n'importe quoi. Une cour d'école dans des enjeux mondiaux. Mathias, en circulation, peut-être juste un petit rafraîchissement là, parce que c'est très difficile du côté de Lévis.
Oui, 20 direction est. C'est entre Taniata, ça remonte jusqu'à 73 présentement. C'est au rouge, même par moment. Là, c'est du pare-choc à pare-choc. En direction ouest, c'est entre Taniata et président Kennedy. 73 direction nord, puis je dis depuis maintenant quelques minutes, là, c'est difficile pour accéder au pont Pierre-Laporte. J'ai pas nécessairement d'informations, mais c'est difficile dans le secteur, puis je sais pas trop pourquoi. Sinon, le reste, ça circule plutôt bien. Il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Vous êtes à Boulevard 102-1. Il vous arrive quelque chose, vous voyez quelque chose, vous voulez juste nous partager votre joie de vivre ou encore que vous allez au Festival d'été de Québec ce soir voir Soldia. 418-971-1021, on vient de le dire, c'est 24 à Québec. Il a commencé à pleuvoir dans certains secteurs. Et dans le vôtre? Oui? Ah, dites-nous-le. Hey, on revient.
Jusqu'à 14h.